Chers collègues, nous poursuivons sans attendre avec l'exposé de Jean Bernon, chef de projet SGBM pour l'ABES. Jean, tu as la parole.
D'accord. Vous m'entendez là? Oui. Alors, la présentation que je vais vous faire, elle sera complétée par celle de Marianne Gilou cet après-midi. Hein, parce que, bon, comme on va vous l'expliquer, il y a deux groupes de travail principaux dans le projet. Il y a un groupe de travail des sites pilotes et un groupe de travail qui accompagne une étude sur le catalogage et la production des métadonnées. Voilà, donc moi je vais vous présenter l'architecture générale et puis je vais vous parler surtout du travail du groupe site pilote. Et Marianne, cet après-midi, vous parlera surtout du travail du groupe d'études sur le catalogage et la production des métadonnées. Alors, ça ne veut pas démarrer. Si, voilà. Alors, l'organisation. D'abord du projet, donc un rappel rapide sur les origines. Donc, il y a eu un séminaire qui a un petit peu lancé cette idée, qui était un séminaire préalable au JABES de 2011. À ce moment-là, c'était constitué d'ailleurs à l'initiative du SICD de Toulouse un groupe de 6 établissements, dont 3 d'entre eux d'ailleurs font partie actuellement des sites pilotes. Il y avait également une initiative, je dirais, de l'ABES avec un groupe projet de l'ENSIP qui a travaillé sur le projet. Donc en fait, ces deux groupes ont un peu travaillé en parallèle à l'automne 2011. Et le CA de l'ABES a inscrit le projet dans le projet d'établissement 2012-2015 qui a été voté le 24 novembre 2011. Un chargé de mission, moi-même, a été recruté en avril 2012. Et il y a eu, là, à ce moment-là, presque un an de travail avec un comité technique. On vous avait contacté justement pour demander ceux qui souhaitaient participer au comité technique. Donc il y avait en gros 24 établissements dont et il y avait d'ailleurs en parallèle au comité technique et travaillant en lien avec lui un groupe EPRIST. Alors le résultat de ces travaux, vous pouvez les trouver sur le blog sgbm.abes.fr. Je vous remettrai l'adresse tout à l'heure. Et le résultat, c'est qu'en janvier, à partir de janvier 2013, on a écrit une étude d'impact. Bon, cette étude d'impact, elle a été affinée pendant 2-3 mois au niveau de l'ABES. Elle a été publiée en avril. Et à ce moment-là, on a recommuniqué de manière forte avec vous pour vous inciter à débattre sur cette étude d'impact. Et je dirais qu'en gros, ce mouvement, il s'est terminé au JABES 2013. Et le CA du 12 mai 2013 a décidé de lancer le projet. Alors oui, parce que dans l'étude d'impact, il y avait aussi des scénarios hein, pour lancer le projet. Donc le CA a choisi... exactement ce qu'a dit... Il y a deux interprétations. On n'est pas sûr de bien interpréter la décision du CA. Il y a une interprétation qui dit le CA a choisi le scénario 2. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que concrètement, le CA a dit qu'effectivement, il fallait que des sites pilotes commencent à travailler sur les fonctions locales, mais que pour les fonctions nationales, il fallait faire une étude parce que les choses semblaient un petit peu complexes. Et troisième chose, élément concret qu'a donné le CA, il a dit c'est probablement la forme du dialogue compétitif qui est adaptée. Alors, les suites de ce CA, c'est qu'on a d'abord commencé par établir un macro calendrier du projet. Et effectivement, donc, comme nous le demandait le CA, on a lancé une étude. Donc, l'intitulé exact de l'étude est « Étude sur les objectifs d'évolution du service de catalogage partagé et de la production des métadonnées communes dans le réseau SUDOC et SUDOC PS ». Je le lis complètement parce que voilà, c'est vrai que des fois on a tendance à réduire ça à études sur le catalogage. Bon, c'est catalogage et métadonnées. Et puis on avait voulu souligner que quand même il y avait le réseau SUDOC et SUDOC PS, il y avait une certaine complexité du réseau SUDOC. Il y a donc un groupe de travail, celui dont vous parlera Marianne cet après-midi, qui a été mis en place pour accompagner cette étude. Il y a eu à ce moment-là un appel à candidature aussi qui a été lancé auprès de vos établissements et les deux groupes de travail, donc groupe qui a été constitué, je vais y revenir hein, sur le détail. Les deux groupes de travail qui ont été constitués ont commencé à se réunir en octobre 2013 et ils doivent livrer le résultat de leur travail en avril 2014. Et la livraison, c'est une étude de la société Pléiade et un projet de programme fonctionnel pour le dialogue compétitif ou les dialogues compétitifs, j'y reviendrai. Alors, il est important de noter que ces actions ont toujours été menées en concertation avec le comité technique d'abord, hein, qui avait travaillé sur le projet. Donc, il y a eu une réunion en juillet avec eux, notamment pour, je dirais, passer du comité technique au site pilote, et aussi avec la commission SSI de la DBU. On a eu une réunion en juillet, on a eu beaucoup d'échanges en septembre, mais on en a toujours depuis. Hein, on en a, voilà. Et surtout, il y a eu donc la commission SSI a choisi un certain nombre de représentants dans les groupes de travail. Alors, le macro-calendrier. Alors, bon, c'est un peu petit, vous avez peut-être du mal à lire. Moi aussi, je suis obligé de changer de lunettes. Alors, donc, vous voyez sur le macro-calendrier que, bon, il y a des choses en vert, c'est tout ce qu'on a déjà fait. Vous voyez que, la phase qui est vraiment en cours de route, c'est ça, c'est le travail des deux groupes. Donc, il est bien avancé, il va bientôt se terminer. Vous pouvez noter au passage, oui, qu'effectivement, on a choisi un prestataire pour l'étude, on a constitué des groupes, et que bon, tout ça, il a fallu le faire. Hein, c'est pour ça que c'était dans le macro-calendrier, même si aujourd'hui, ça paraît naturel. Il y a un petit point jaune, là, qui est resté bloqué, et c'est assez important. C'était l'approfondissement du cadre administratif du déroulement du dialogue compétitif. Et on n'a pas complètement, à ce jour, réglé la question, on est encore en train d'y réfléchir. Et également, on peut noter qu'il y a eu le CA a fait une validation d'étape. Alors, ensuite, donc, il va y avoir en avril un avis du comité de pilotage et d'ailleurs du CS, il faudrait rajouter hein, ce calendrier qui a été fait au départ, on pensait surtout au comité de pilotage, et une décision du CA, donc le 12 mai prochain. Et dans la foulée, on doit lancer le marché SGBM. On devrait ensuite, à la fin de cette année, choisir les candidats admis à dialoguer. Et ensuite, va démarrer un premier dialogue compétitif sur les systèmes locaux. Et voilà. Alors, bon, c'est intéressant de voir comment ça avait été formulé au moment où on a fait le calendrier sur les systèmes locaux et sur l'aptitude générale à remplacer le SUDOC. C'est-à-dire, bon, il s'agissait surtout de faire un dialogue compétitif sur les fonctions locales, mais on voulait vérifier au passage que ce qu'on choisissait, ça avait la capacité d'aller plus loin sur le SUDOC, mais on ne vérifiait pas complètement. Donc, ensuite, si mon curseur veut bien, voilà, on est ici, on choisit un prestataire, hein, donc fin 2015. Ce prestataire, début 2016, il migre les systèmes locaux des sites pilotes. Décidément, cette souris, elle est... Bon. Alors, et ensuite, j'en suis à l'avant-dernière ligne. Et en même temps qu'on migre les sites pilotes, on lance un deuxième dialogue compétitif sur le remplacement du SUDOC, sachant que ce deuxième dialogue compétitif, on y reviendra, consiste à vérifier si véritablement... Le fournisseur qu'on a choisi est capable de remplacer le SUDOC. Et s'il n'est pas capable, on se limite à lui demander de mettre en place une bonne articulation entre le système local mutualisé choisi et le SUDOC actuel et ses futurs successeurs, bien sûr. Hein, c'est pas un engagement, voilà. Voilà pour le macro-calendrier. Donc là, du coup, je vais reprendre d'ailleurs des éléments que j'ai indiqués dans le macro-calendrier. On va aller très vite. Donc, on a commencé par faire un MAPA et on a retenu la société Pléiade pour faire l'étude. Le groupe de travail qui fait l'étude, c'est Moritz van der Graaf, donc de la société Pléiade, qui anime les réunions du groupe. Il y a 10 personnes de la baisse, 2 chargés de mission, Philippe Le Pape et moi-même. Il y a 5 personnes du département des services au réseau. Bon, je ne vais pas tous les énumérer, mais il y a 2 personnes du département des systèmes d'information et une personne du département études et projets. Et donc, il y a des représentants du réseau, c'est ceux dont je disais qu'ils avaient été choisis par la commission SSI. Donc, il y en a 2 qui sont vraiment des représentants de la commission SSI, je dirais directement. Et puis, il y en a 2 qui ont été choisis parce qu'ils avaient participé au groupe RDA. Voilà. Et enfin, dernière chose, on s'est dit que pour qu'il y ait quand même une coordination du travail des 2 groupes, il fallait demander à 2 sites pilotes qui sont dans l'autre groupe de participer aussi à ce groupe. Voilà, donc il y a 2 représentants des sites pilotes. Bon, dans la pratique, dans la réalité, il n'y en a qu'un pour le moment. Mais enfin, alors, les objectifs de ce groupe, c'est de brosser le tableau des évolutions en cours en matière de catalogage et de production de métadonnées. C'est à partir de ce tableau d'essayer de tracer nos propres objectifs à l'intérieur de ça et enfin d'arriver avec ça à produire, à alimenter le programme fonctionnel qui serait lancé en juillet pour les 2 dialogues compétitifs. Sachant que là, le groupe, il aurait, je dirais, à alimenter le programme fonctionnel pour le premier dialogue compétitif sur des choses un peu générales et pour le deuxième dialogue compétitif sur des choses très précises sur comment on fait pour migrer le Sudoc. Voilà donc ce groupe de travail, son calendrier. En gros, donc il y a eu 4 ateliers et vous voyez que là, actuellement, on est en février. Et on tient vraiment très bien nos plannings. Et donc, la semaine prochaine, le 25 février, aura lieu le 4e atelier et la Pléiade nous remettra le rapport intermédiaire sur lequel nous allons plancher le 25 février. Voilà. Et donc, vous voyez que fin mars, il y aura normalement un dernier atelier de ce groupe pour valider le rapport définitif et puis justement pour préparer les éléments de dialogue fonctionnel, de programme fonctionnel. Voilà. Alors les sites pilotes. Alors la condition pour participer était la suivante. Hein, c'est ce qu'on vous a écrit au mois de juillet. Bon, il fallait qu'il y ait un engagement moral de l'établissement à aller jusqu'au bout et donc pour ça on demandait une lettre signée du président ou du directeur de l'établissement et on vous a dit qu'il fallait que vous puissiez consacrer, enfin on a dit à ceux qui étaient candidats pilotes, il fallait qu'ils puissent consacrer un demi ETP de septembre à avril, donc dans la période actuelle et qu'ensuite, quand va démarrer le dialogue compétitif, le premier surtout, ils devront y consacrer un ETP entier. On a eu 44 réponses à notre appel à candidature. On avait 15 candidats qui nous ont dit vraiment on veut être site pilote. Je dirais que bon, dans le reste, il y en a beaucoup qui nous ont dit on aimerait bien, mais ce n'est pas tout à fait le moment. Donc, on espère fermement être dans la prochaine vague. Il y en a quelques-uns qui nous ont répondu pour nous dire que ce n'était pas intéressant du tout. Voilà. Alors, alors des 15 aux 12, on a retenu. Pour tout vous dire, on a été un peu surpris par le nombre de candidats. On pensait qu'il y en aurait moins. Et comme on avait un peu un problème de logistique aussi, on a été un petit peu rigoureux. Et donc, c'est pour ça qu'on est arrivé à 12. Hein. Je veux pas. Bon. L'Artois, Bordeaux, la médiathèque de la Cité des Sciences, le Clermont-Ferrand, le Havre, l'île 3, le littoral, Côte d'Opale, la Lorraine, l'Université du Maine, Montpellier, Paris-Descartes et Toulouse. Voilà donc les 12 sites pilotes. Bon, vous avez noté tout de suite comme moi, enfin peut-être pas encore, mais que Bordeaux, Montpellier, Lorraine, Toulouse, c'est des poids lourds. Hein. C'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment 12 établissements bien. Voilà. Le groupe des sites pilotes. Excusez-moi.
Tu penses à quoi en disant ça, en fait
bien, Non, mais bien, je veux dire que c'est, C'est vraiment, c'est, au fond, c'est plus que 12 établissements. Voilà, c'est simplement ce que je veux dire. Je n'émettais aucun jugement sur la qualité des établissements. Alors, et d'ailleurs, j'ai un petit tableau ailleurs qui montre qu'en poids d'étudiants, c'est pratiquement 400 000 étudiants. Voilà, groupe pilote. Et c'est 18 000 enseignants-chercheurs. Alors, les objectifs du groupe site pilote, c'est de préparer le programme fonctionnel en vue du premier dialogue compétitif, c'est de participer au premier dialogue compétitif, et c'est de migrer les systèmes locaux vers la solution qui sera retenue à l'issue du premier dialogue compétitif. Le groupe est constitué du chargé de mission de la BES, enfin disons, c'est moi-même qui pilote ce groupe. Il y a 11 chefs de projet de site, parce que les deux établissements Artois et Littoral ont un chef de projet commun. Il y a 5 membres de la BES, donc 2 chargés de mission, là je dois être de nouveau dans le lot avec Philippe, un représentant du DSI et 2 représentants du département des services au réseau. Il y a 3 représentants de la DBU, donc 2 membres de la commission SSI et un site observateur qui s'est proposé, qui a été, je dirais, adoubé par la commission SSI et qui est l'ENS Lyon. Voilà. Moritz van der Graaf a souhaité, et je trouvais que c'était une bonne idée, il ne participe pas à toutes les séances, comme il pilote l'autre groupe, a souhaité être observateur dans ce groupe. Notre calendrier, voilà, donc on a fait une séance sur la méthode de travail en général, 20 octobre. On a fait 2 séances sur les fonctionnalités, 3 décembre, 14 janvier. On a fait avant-hier une séance sur les questions d'ouverture et sur la migration. Et on a une dernière séance planifiée le 25 mars où on va voir surtout les problèmes d'organisation et de répartition des rôles. On s'est organisé en commissions, on a 9 commissions, une sur les acquisitions, une sur la circulation et l'accès, une sur le catalogue, une sur la découverte, une sur l'intégration au système d'information, une sur le protocole d'évaluation pour le dialogue compétitif, une sur les garanties d'ouverture, choses comme ça, et une sur l'organisation et une sur la formation, documentation. Voilà. Et on souhaitait arriver à écrire au fur et à mesure le programme fonctionnel. On y arrive tant bien que mal. Voilà. Alors, les points divers. Un point important, c'est que on est Jérôme Calfon et la BES sont invités au comité de pilotage système d'information de la CPU. On y est allé donc le 4 novembre dernier. C'était une initiative de Thierry Bédouin qui avait travaillé avec nous, notamment dans les groupes comités techniques. Et on a pu présenter la stratégie globale de la BES et du projet. Et nous sommes invités à continuer à participer à ce comité de pilotage. Et je pense que c'est important pour la dimension intégration aux établissements du projet, parce que je pense que c'est une dimension importante de ce projet. Et deuxième point important, c'est que, vous savez sans doute que je vais quitter mes fonctions bientôt. Et donc, nous sommes en train de... on peut vous dire qu'on a pratiquement recruté, mais les modalités administratives sont en cours, un directeur de projet qui prendra le relais. Voilà. Alors, les travaux... Donc, comment on travaille? On a 2 listes de diffusion, une par groupe. On a un espace collaboratif qui est commun aux 2 groupes, avec un site général pour le groupe pilote, un site général pour le groupe d'études, et il y a un site par établissement pilote, sur lequel chaque établissement peut mettre les documents qui lui paraissent importants. On fait des réunions de groupe en visioconférence, pratiquement toujours. Bon, il y a eu des discussions là-dessus. Des fois, c'est un peu difficile, mais quand même, c'est économe, puisque une des dimensions du projet, c'est de faire des économies d'échelle, donc on essaye. Donc, en gros, souvent, on travaille à 2 salles de visioconférence, une à Montpellier, une à Paris. Oula, ça va être dur. Alors, on fait des réunions de commissions par Skype, donc les commissions, c'est environ 5 personnes. Alors, Très rapidement, on a fait des fiches de site. C'est quelque chose d'assez important où on demande tout un tas de renseignements sur le site. On remplit ça dans un tableau commun et on fait des tableaux de bord récapitulatifs qui serviront au dialogue compétitif. Certains seront carrément affichés dans le programme fonctionnel pour les fournisseurs, les autres serviront à l'évaluation. Alors, les commissions fonctionnelles, acquisition, découverte, circulation, on a identifié 250 fonctionnalités. Alors, une fonctionnalité exprime un besoin et non une méthode, c'est-à-dire qu'on essaie, on ne dit pas, je ne sais pas quoi, il faut utiliser IP ou je ne sais pas quoi, on essaie de dire, on a besoin de telle fonctionnalité. Voilà. Et puis, on fait une pondération par site. Mais comme j'ai que 5 minutes, je vais aller plus vite parce qu'il y a peut-être... Bon, je voulais vous donner des détails, je vous en redonnerai si vous voulez sur la manière dont on travaille. Ça me paraît important. Peut-être dernière chose, c'est que les 250 fonctionnalités, c'est bien un beau, mais ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va définir quelques dizaines de use cases, excusez-moi pour mon anglais, qui serviront concrètement aux auditions du dialogue compétitif. Voilà. Écoutez, du coup, je passe vite. Oui, la commission protocole d'évaluation fonctionnelle, en gros, on va reconduire le système des commissions, mais il y en aura un peu moins. Et on a prévu, en gros, de faire 3 éditions de chaque fournisseur et par commission. La commission migration. Donc, du coup, je suis désolé, bon, j'en parle pas, bien que je sais que sans doute ça vous intéresse. On va dire que l'idée, en gros, c'est d'essayer de mettre un PPN dans toutes vos notices de système local. Et puis ensuite, le SUDOC va envoyer au SGB le niveau 0 des notices. Et pour les niveaux 1 et 2, c'est soit votre système local, soit le SUDOC, selon votre choix, qui enverra les informations. Je passe plus vite là-dessus, bien que ça soit très intéressant. La commission garantie d'ouverture et d'interopérabilité, donc il y a eu un travail intéressant sur toutes les API. On a essayé d'identifier toutes les API existantes. Et en gros, on va essayer de vérifier les systèmes à partir de cette liste d'API. Il y a un certain nombre de garanties à obtenir. Donc ça rejoint les propos peut-être de ce matin sur les métadonnées, les données qui sont notre richesse et qu'il faut garder. Donc je vais plus vite. Il y a une commission formation, je suis désolé Laurent, mais je massacre un peu. Alors, une commission répartition des rôles. Voilà. Alors, parce que quand même, je voudrais rapidement, ça parce que c'est ça le plus important. On a des objectifs, voilà. Le premier objectif du projet, c'est la modernisation et la mutualisation des systèmes locaux. Il y avait un deuxième objectif, et ça, quand on relit le projet d'établissement, c'est clair, qui était l'articulation du système local mutualisé avec le SUDOC pour une meilleure cohérence. Voilà. Mais en cours de discussion et notamment au vu des capacités des plateformes nouvelle génération, on a un petit peu dérivé de articulation avec le système SUDOC à modernisation du système SUDOC, ce qui est un peu différent. Voilà. Et à partir de ça, on a fait un scénario 1 qui a été notre matrice de travail de départ un peu et qui revient sans cesse, qui était en gros de traduire ça directement à un scénario et de dire, ben, c'est simple, on migre les systèmes locaux et le SUDOC sur la même plateforme et tout est réglé. Avantage, c'est économique. Les questions d'interopérabilité, on n'en a plus. Puisqu'on est sur le même système, tout est interopérable sans discussion. Et les données, elles sont cohérentes. Alors, ça a quand même un inconvénient, c'est que c'est effectivement un peu monolithique et qu'il y a un risque de marché captif. Et on avait identifié assez rapidement qu'il y avait deux limites. C'est que d'abord, on n'était pas sûr de pouvoir migrer le SUDOC. Et deuxièmement, on est sûr qu'il y a un certain nombre de systèmes locaux qui ne migreront pas sur cette solution mutualisée. Donc, à partir de ça, on avait fait un scénario 2 et 3. Et je dirais que dans l'étude Pléiade et dans les discussions qu'on a concrètement, on s'est rendu compte que finalement, des scénarios, il y en a beaucoup plus que ça. Et notamment, il y a au moins quelque chose, bon, Marianne en reparlera cet après-midi, mais il y a surtout le projet allemand CIB, qui est un projet proche du nôtre, qui nous a amené à réfléchir. Et là, je vous montre au moins un écran. Il me reste combien ? 2 minutes ?
2 minutes.
Alors, au moins cet écran, pour que vous compreniez, pour moi, pour schématiser un peu comment se posent les problèmes, et après, c'est des variations autour de ça. Il y a des SIGB ici, mais il continuera d'y en avoir, des SIGB locaux. Ils ont des données. Il va y avoir un SGB mutualisé de sites pilotes et il va y avoir ce que les Allemands appellent un espace de données, c'est-à-dire ce n'est pas les données d'un seul site, mais c'est un groupe de bibliothèques qui ont un espace de données commun, un groupe de bibliothèques françaises qui ont un espace de données à l'intérieur d'une immense base de données internationale. Et pourquoi pas, s'il y a d'autres sites qui choisissent un autre système de SGB mutualisé, parce que ça peut arriver, il y aura un autre groupe, un autre espace de données françaises ailleurs. Voilà. Et bon, le choix des Allemands et le nôtre, et là on voit bien, et ça rejoint la question des données, on a tous dit, avoir nos données ici c'est très bien, mais il faut qu'on ait absolument une garantie, et on veut créer ce qu'on appelle un data pool national qui nous permettra de copier, de sauvegarder les données, nos données qui sont dans ces systèmes, et deuxièmement, qui nous permettra de construire les services nationaux qui, de toute façon, n'iront pas dans les GBM autour. Voilà. Et donc, je termine en attirant votre attention sur les applications là, dans ces cadres-là que j'ai essayé de mettre à côté de ces données. Donc, clairement, en gros, ce qui est sur les systèmes locaux, sachant que ça, ce sont d'abord des systèmes locaux, c'est la gestion locale et la découverte, en gros. Voilà. Ce qui est du côté du data pool national, bon, on peut dire aujourd'hui le SUDOC, c'est le data pool national, hein, actuellement. Voilà. Il y a des applications qui resteront incontestablement, c'est IDRF, les autorités, c'est Beacon, c'est STAR, c'est CALAM, c'est Periscope. Voilà. Il y a quelque chose d'à part, on en a parlé ce matin, c'est la grosse moulinette, comme disait Jérôme, le hub de métadonnées. Bon, c'est un petit peu à part. Parce que lui, en fait, il alimente tous les autres. Et puis, vous remarquerez, dans ce schéma, c'est ce qui est important, que le catalogue collectif et le catalogage partagé, on peut le situer à des endroits différents. Catalogue centralisé qu'on connaît actuellement, c'est que catalogue collectif et catalogage partagé, Colodus, que j'ai mis là, ils sont ici. La perspective qui est ouverte par les SGB, c'est que peut-être que catalogue collectif et catalogue partagé, demain, potentiellement, ça peut être là-bas. Et les Allemands, en tout cas, eux, clairement, ont fait le choix. Catalogue collectif et partagé, ça se passera ici. Et ce qui va rester au niveau national, c'est les autorités. Voilà, je m'arrête là. Je suis désolé, mais voilà.
Merci beaucoup, Jean.
J'avais essayé de décliner les options. Il y a quelques questions, mais on en reparlera, et puis quelques conclusions.
Vous notez la richesse et la quantité de travail qu'il y a derrière ce projet.
On peut peut-être l'applaudir, Jean, parce qu'il a fait quand même une présentation. Je ne sais pas, non ? Vous applaudissez pas ? Voilà, allez.
Les questions, la parole est à la salle.
Il y en a, c'est sûr. Première ?
Du coup, moi, je me lance en attendant que le micro arrive. Jean, tu nous as beaucoup parlé de l'exemple allemand qui est particulièrement intéressant. Nos homologues sont à quel état d'avancement par rapport au calendrier en France ? Est-ce que...
Oui. Alors, ils fonctionnent différemment. Bon, je pense que Marianne en parlera un peu. Mais pour le moment, ils sont... Vraiment. Alors, à la fois, ils disent bien notre projet, il en est au stade du concept. C'est ce qu'ils disent hein, pour le moment. Je ne vous cacherai pas, parce que le projet allemand, c'est aussi la situation de l'Allemagne, c'est qu'il y a 6 réseaux régionaux. Et donc, un des objectifs majeurs du projet pour eux, c'est de regrouper les données allemandes au niveau fédéral. Bon, donc il y a des discussions entre eux. Alors, l'autre point, c'est que, bon, apparemment, il semblerait qu'ils aient démarré quand même des choses concrètes qui sont des tractations directes. Avec carrément 2 plateformes, voilà, dont ils considèrent que sont les plateformes dominantes et qu'il faut négocier avec eux. Voilà.
Bonjour, j'en reviens toujours un peu à la même question. Est-ce qu'on a une idée un petit peu plus précise des coûts finaux si on veut s'intégrer
Alors, les coûts,
Ou alors c'est trop tôt
ou... Oui, alors on a défini une philosophie, en gros, depuis l'étude d'impact déjà, et qui demeure, et je crois qu'on ne pourra pas aller plus loin tant qu'on n'aura pas les réponses à l'appel d'offres. Hein. C'est-à-dire qu'on essaie de rester dans les clous des budgets actuels des établissements. C'est pour ça qu'il y a un gros travail. Oui, parce que quand même, bon, même si je n'ai pas tout montré, il y a au moins ça. C'est que les membres des groupes, voilà. J'ai beaucoup emprunté dans cette présentation à Moritz, et les membres du groupe de travail ont beaucoup fait de choses. Et donc, ils ont fait une étude sur les coûts d'informatisation dans leur dans l'établissement. Ça nous permet d'avoir une idée à peu près claire de ces coûts. Et je dirais qu'ensuite, ben, effectivement, au moment du dialogue compétitif, il va falloir voir dans ce qui nous est offert, est-ce que c'est... plus ou moins, normalement il ne faut pas que ça soit plus, ou si c'est légèrement plus, bon, parce qu'il y a plusieurs niveaux de coûts, hein, dans les évaluations, c'est compliqué.
Vous prenez la moyenne ou... Parce que de mémoire, je crois que c'était 100 000 euros.
Ben, la moyenne de l'étude, hein, c'était qu'avec les ressources humaines, si on inclut les ressources humaines, c'est, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises, il y a peut-être Sophie dans la salle qui me corrigera, c'est 300 000 euros, hein, je crois, avec les ressources humaines. En coût de fonctionnement hors ressources humaines, on est à plus de 100 000 euros, de toute façon, en moyenne par établissement. Voilà. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'il faudra mesurer ça en fonction des services qu'on a en plus. Si, par exemple, aujourd'hui, vous n'avez pas du tout de RM et qu'en entrant dans cette solution, vous avez un service que vous n'aviez pas avant, peut-être que il faudra, bon, si le coût il est 5% en plus de ce que vous payez avant, bon, ça mérite réflexion.
Merci.
Pour compléter en termes de tarifs, on va définir d'une façon ou d'une autre des tarifs cibles. Et si les tarifs cibles ne sont pas atteints, sont dépassés par les offres, on peut déclarer des marchés infructueux. Hein, ce n'est pas parce qu'on ne doit pas se baser uniquement sur les coûts existants. Il faut avoir une bonne compréhension de la chose, même si la baisse est porteur d'un groupement de commandes. C'est les établissements qui sont les porteurs de la commande. Donc c'est les établissements dans leur collectivité en tant qu'établissement qui vont établir un tarif. Alors on peut avoir des évaluations, mais il s'agit de raisonner en termes des services qui sont rendus et non pas simplement en termes de ça me coûte tant, donc ça doit me coûter au moins autant. Ça peut être ça la philosophie d'un certain nombre de prestataires. Et c'est la définition du coût est différente également parce que ce sont des coûts récurrents, ce sont des coûts d'abonnement. Donc tous ces éléments doivent rentrer en ligne de compte dans l'analyse. Et très clairement, si on fait de la mutualisation, si on fait de la mutualisation entre la baisse et des établissements, si les établissements mutualisent, c'est pour faire aussi des économies, très clairement.
Oui. Yves Tomic de l'Université Paris-Sud. Je vais poursuivre un peu sur cette dimension-là. Effectivement, tout à l'heure, on a eu une présentation... on va dire, qui est resté dans le cadre de très professionnel, mais la dimension financière est importante, et d'autant plus qu'on est dans un contexte où les budgets des universités baissent, et notamment les budgets des services communs de documentation. C'est le cas quand même dans plusieurs universités. Et justement, cette dimension, elle est absente de la réflexion, c'est-à-dire qu'on est resté sur une réflexion liée au monde de la documentation, mais on n'a pas intégré tellement la dimension du contexte aujourd'hui qui est la situation difficile de beaucoup d'universités françaises. Mais maintenant, une autre question, et là j'interviendrai peut-être plus aussi en tant que président de l'association qui fédère les utilisateurs de Koa en France, donc Koala. Dans quelle mesure vous avez intégré les solutions open source à votre réflexion jusqu'à présent? Et en ce qui concerne le dialogue compétitif, est-ce que c'est un dialogue ouvert ou déjà relativement ciblé?
Écoutez, je suis le premier à regretter qu'il n'y ait pas, à mon avis, vraiment de solution open source de ce niveau aujourd'hui. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on a suivi, sur laquelle on a beaucoup compté, qui était Koali Olé. Bon, je suis ça quand même d'assez près. Concrètement, donc il y a effectivement une version de production de Koali Olé qui est sortie, enfin. Mais cette version, C'est pas une version système commun, mutualisé, c'est une version qui est installée dans, concrètement dans deux ou trois universités, là, qui va être installée dans deux. Mais donc c'est installé en système local, en solution locale. Et ça, c'est, enfin, à mon avis, c'est quand même une des difficultés de l'open source, hein, c'est que, certes, je suis le premier à savoir qu'il y a de la collaboration entre établissements autour des systèmes open source, mais au bout du compte, l'installation et le travail, il se fait quand même, au final, établissement par établissement. Donc, les solutions cloud, elles proposent effectivement de vraiment travailler ensemble dans un système commun. Elles ont un inconvénient, effectivement, c'est que y a la notion d'open source disparaît pratiquement. C'est quand même compensé par le fait que, normalement, il y a possibilité sur une plateforme de service de construire des choses autour. Bon, il y a quand même un jeu d'API, une ouverture du système qui permet de créer des choses autour. Voilà, y compris en open source d'ailleurs. Mais c'est vrai. Bon, il y avait Qualiole qui était open source et finalement, ce n'est pas un système cloud, c'est un système local. Voilà, concrètement.
J'ai une petite question de Marie Tsagoria, directeur de la BULAC. Je dois ignorer plein de trucs, mais sur le schéma que tu as montré tout à l'heure, Jean, j'ai pas compris du tout l'intérêt des petites bases de données liées aux différents SGBM mutualisés, le catalogage partagé au niveau des groupes de SGB mutualisés. C'est quoi l'intérêt de ces petites piscines locales par rapport à la grosse piscine nationale?
Eh bien, autant... Ce qui est assez clair, c'est que autant un SIGB catalogué tout seul sur son système local face au SUDOC, ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Donc ça vient tout le monde naturellement utilise le catalogage partagé. En revanche, dans un système de gestion de bibliothèque internationale mutualisée, il va y avoir une fonction de catalogage partagé qui rendra des services analogues au SUDOC, hein, concrètement en termes de catalogage partagé. Donc la question se pose, la question se pose, et même dans les groupes de travail, ce que disent les collègues des sites pilotes, c'est qu'ils disent on veut bien travailler à la fois sur le SUDOC et sur le système mutualisé, mais il ne faut pas qu'on ait de double saisie. Et si on a de la double saisie... à terme, on risque d'avoir se poser la question, est-ce qu'il ne vaut pas mieux cataloguer carrément dans le système international mutualisé?
Alors, pour compléter, si la question c'est que font les petites piscines dans l'affaire, s'il n'y a plus que deux grosses ou trois grosses piscines, la BES a une mission nationale et une mission qui consiste aussi à offrir un certain nombre de services de catalogue collectif et de catalogage partagé en l'état actuel des choses. Comment évoluera cette mission? En tout cas, sur le catalogue collectif, on pense que ça fait partie du socle. Le catalogage partagé, on peut peut-être rompre le paradigme, mais il faudra de toute façon une phase de transition. Et cette phase de transition peut durer un certain temps. Les évolutions de cette phase de transition, c'est aussi de dire on continue d'avoir besoin, un certain nombre d'établissements continuent d'avoir besoin des services, et on peut définir un calendrier d'évolution avec des principes de certification d'un certain nombre d'éléments de compatibilité pour que des systèmes locaux indépendants puissent continuer de fonctionner. C'est ça qui pourra être le scénario d'évolution. Mais à un moment donné, il y aura forcément un certain nombre d'évolutions qui vont se produire, et on verra dans l'évolution, à 5 ans, quelle est la photo de l'existant et qu'est-ce que l'on doit avoir comme politique. Si on est dans un système de catalogage partagé complètement résiduel, il faudra prendre un certain nombre de décisions. Si ce n'est pas le cas, il faudra les prendre aussi. Simplement, on examinera aussi les questions d'opportunité et de coûts liées à ces éléments.
Juste un dernier point sur l'ouverture.
Et on prendra une dernière question juste après.
Ouais. Sur l'ouverture de l'offre et la question de l'open source, comme Jean l'a expliqué, effectivement, si on met les différentes offres sur la ligne de départ, l'open source part avec un handicap. Il n'en demeure pas moins que du point de vue de la commission SSI, de la DBU et des établissements. Pour moi, la question devra être traitée. On l'évacue pas, elle sera analysée avec la même rigueur que les autres, parce que c'est un élément important de la réflexion et qu'on ne peut pas l'évacuer, ne serait-ce que compte tenu du nombre d'établissements qui, en France, utilisent des solutions open source. Et comme l'a évoqué Jean, il est bien placé pour connaître le sujet. Donc effectivement, il y a peut-être un handicap, peut-être que sur ces solutions open source, le souci, c'est qu'il y a une question de portage de prestataires de services, mais également, parce qu'on est sur de l'open source, portage de certains établissements qui s'engageraient dans le cadre de la réponse. On voit qu'on est sur un type de réponse qui est peut-être pas analogue, effectivement, encore une fois, à celle que peut l'être, la réponse que peut être un système propriétaire à la base, mais avec à qui on demandera un certain nombre de garanties d'ouverture via les API. Donc la question, de mon point de vue, et on y tient, sera vraiment traitée avec le même souci, même si effectivement, sur la ligne de départ, il y a un
écoutez,
handicap.
Moi, je vais vous donner une réponse, je pense, très claire. C'est que on a rencontré une société qui fait de l'open source et qui utilise des technologies web sémantiques, qui ont un projet très intéressant. On a discuté, effectivement, en termes de calendrier pour cet appel d'offres, vous n'êtes pas au point, donc il faut attendre. Et par contre, ce qu'il y a, peut-être la chose la plus importante à dire, c'est que aujourd'hui, on réfléchit au fait que probablement, les prochaines vagues d'établissements, il y aura peut-être des vagues mutualisées autour d'autres solutions. Voilà. Et s'il y a une solution open source qui est mûre à ce moment-là, la baisse, normalement, on la prendra en compte.
Voilà. Et je crois que de toute façon, on pourrait faire une journée entière sur cette seule question dans les établissements.
C'est important. C'est important de le souligner. Voilà. Ce n'est pas une question. Il n'y a pas de refus de principe. Au contraire.
Oui, mais que les solutions open source ne sont pas disqualifiées dans le process. Voilà. Je pense que.
Oui.
Oui,
moi, je dirais qu'aujourd'hui, de fait,
elles ne sont
pas tout à fait dans la course, mais à l'avenir, c'est pas du tout exclu. Voilà.
Mais on va prendre juste une toute dernière question, c'était ici.
Oui.
Donc, on est sous quoi depuis 2005. Je pense que dans le cadre de logiciels open source, faut peut-être avoir un raisonnement un petit peu différent et ne plus raisonner en possibilités de développement, etc., que état à un temps T.
Oui, le problème, c'est qu'on...
Je pourrais vous dire que quand on a choisi quoi, personne n'en aurait voulu. Alors que maintenant, il y a 23 ou 25 établissements d'enseignement supérieur qui... Donc, il y a un moment dans ce genre de projet où il faut sauter le pas et dire, voilà, on va investir et on va... je crois qu'il faut y avoir un raisonnement un petit peu différent.
Absolument. S'il y a des établissements, parce que l'ABES est porteur, se comporte un petit peu comme une agence de mutualisation, ce que je disais tout à l'heure. S'il y a un certain nombre d'établissements qui, à un moment donné, mais ce n'est pas le cas dans le groupe pilote tel qu'il est aujourd'hui, s'engagent sur une perspective open source compatible avec les projets tels qu'on les a présentés, évidemment, l'ABES sera dans son rôle pour les accompagner dans cette démarche. L'ABES est en quelque sorte un catalyseur d'initiatives des établissements. Elle n'est pas simplement dans un rôle directeur comme on pouvait le concevoir par le passé. Elle est dans un rôle, si on le considère comme naturel, parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'il y a des établissements qui décident de faire tout en dehors de la baisse, c'est aussi une possibilité, hein, qu'il n'y a pas à exclure, je pense qu'elle n'est pas vraiment souhaitable. On peut être un catalyseur. Si on est sollicité sur des opérations de ce type, elles seront analysées, et je pense qu'il y a à l'intérieur de la baisse, et dans beaucoup d'équipes dans les établissements, des gens qui sont extrêmement sensibles à cette problématique et qui sont plutôt qui la verront avec une démarche quasi militante.
Donc, monsieur le directeur, l'ABES est open à l'open, c'est ça?
Absolument.
Voilà. Donc Grégory, tu conclues s'il te plaît.
Oui. Donc avant de vous donner rendez-vous à 14h pour la suite de notre programme, Jean l'a évoqué très rapidement avec beaucoup de modestie et de pudeur, mais s'il quitte ses fonctions, c'est aussi parce qu'il met un terme à une carrière riche au service de la documentation, de ses usagers et des différents services dans lesquels il a travaillé. Et je pense qu'il faut profiter de cette auguste assemblée pour saluer son parcours à quelques semaines ou quelques mois de la fin de cette carrière et souligner qu'il a l'incroyable mérite, le talent de terminer par un projet très complexe et qu'il faut relever le courage qui a été le sien de s'attaquer à un tel morceau pour terminer une carrière. Je ne sais pas si je serai capable du même exercice quand mon heure sera venue.
Il est en train de dire que je deviens un peu inconscient en vieillissant.